1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes. Du 1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe B. and the Alphabet, Voyage Fantastique, Bernary, Gab Paquet, Fudge, Les Marmottes Aplaties, Crab, Vendredi sur mer, Beat Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca, Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais vous écoutez choc.ca. J'ai une confession en quelque sorte à vous faire, mais bon, évidemment que j'ai comme un biais parce que le mot Pop en Stock apparaît sur la couverture, mais ma déclaration et mon biais va comme suit. Je trouve que Poétique du mixtape de Stéphane Girard est le plus important livre sur la culture populaire à avoir été publié au Québec cette année. Bon, je comprends, il n'y a pas un grand bassin de compétition, mais je dirais même que dans la collection Pop en Stock, je me retrouve un peu à avoir une immense admiration pour ce livre-là, autant que j'en ai pour le très célèbre effet aussi, joue de l'air guitar de Hélène Lorrain. Et je voulais en parler, je voulais absolument en parler, je viens tout juste de terminer le livre qui doit sortir d'un instant à l'autre en librairie. Donc, pour la prochaine heure, je vais m'entretenir avec l'auteur pour vous donner le maximum de goût d'aller acheter et consommer ce livre-là. Je l'ai lu en 3 jours. Je capote, j'en viens pas que tu écris ça, c'est extraordinaire. Stéphane Girard, bonjour.
Merci de cet accueil très chaleureux.
Non, mais il est bon. C'est vraiment un excellent livre. Je le trouve beau, je le trouve bon, en fait. Bon, c'est Ben Tardif qui s'est occupé de la couverture. Je le trouve incroyable. Puis en sachant que la couverture est incroyable, vous allez savoir exactement où la trouver. Mais je trouve que c'est un livre qui est ambitieux, complexe. Ça ratisse très, très large, mais c'est d'une démonstration d'une érudition totale sur le domaine et aussi sur comment la compréhension du domaine du DJing, comment une compréhension pointue et réfléchie de ce domaine-là peut nous permettre de mieux comprendre plusieurs autres manifestations de la culture populaire. Puis là, c'est là où ce que mes louanges du livre aboutissent, c'est que je trouve ça extraordinaire d'être capable de prendre un phénomène niché comme ça. Bon, à mon avis, pour ma part, pour mon expérience personnelle, je ne connais pas très bien les clubs, je ne connais pas très bien l'expérience de la sortie dansante et ainsi de suite. Mais dans sa description la plus rigoureuse, tu réussis à parler et à utiliser un langage académique autour qui nous fait comprendre la profondeur de la pratique et qui nous fait repenser l'entièreté de nos préconceptions par rapport à la culture populaire via cette manifestation-là bien précise. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de connaître les DJ, tu n'as pas vraiment besoin de connaître la scène des clubs, la scène house et tout, pour comprendre Poétique du mixtape, parce que quand tu lis, c'est le contexte qui nous fait comprendre la beauté et la diversité de cette manifestation-là. Fait que ça sert à moi, personnellement, ça me sert énormément. Je suis convaincu que ça va servir à beaucoup de gens.
Je suis content de t'entendre dire ça, Jean-Michel. Je te remercie de ces bons mots. L'idée derrière le bouquin était donc de faire la démonstration que c'est possible de faire appel à des théories éprouvées, des notions théoriques là, qui circulent déjà là, dans l'idéosphère, si on veut, là, ah ouais. Et de prendre ça et de les appliquer à l'étude d'un phénomène qui peut nous apparaître un peu trivial, entre guillemets, là, c'est un mix de disques jockeys, tu sais. Tout le monde en a déjà entendu, mais personne ne s'est probablement pas là, tu sais, penché sur le sens qu'il y a derrière la pratique et comment sens et valeurs se retrouvent à être communiqués par ce genre de pratique-là. C'est un peu ça l'objectif du livre là, ouais. qui le traverse là, du premier au dernier chapitre.
Mais en même temps, c'est ça, c'est pipiche. Je renchéris là-dessus, c'est que c'est tellement bien fait que on comprend plus, on comprend plus large que le mixtape. Puis, à mon avis, c'est un peu manifeste dans les gens, ou c'est majoritairement manifeste dans les ouvrages où les gens sont de véritables passionnés, où il y a une vraie fascination, entrecoupée aussi avec une érudition. Là. Ça paraît que Ou du moins, si c'est pas le cas, là, c'est de la très belle poudre aux yeux. Là. Ça paraît que ça fait longtemps que tu en écoutes, que tu connais super bien ça. Puis souvent, quand les gens sont rendus à ce niveau de connaissance, ben, ils réussissent à faire ressortir les beautés intrinsèques. Mais je me trompe pas, là. Ça fait longtemps.
Non, tu te trompes pas. Puis c'est particulier parce que j'ai une formation de littéraire, là, puis que ce soit dans le cadre de mes cours, quand j'étais au premier, deuxième, même au troisième cycle, dans le cadre de mon doc, quand j'enseigne désormais, je suis professeur au niveau universitaire, j'ai pas de mal à parler de livres que j'aime pas. T'sais, j'ai pas de mal à parler de choses qui m'ennuient. Des poèmes de Lamartine, par exemple, je suis capable de parler de ça à mes étudiants, même si Lamartine m'ennuie, ça me dérange pas d'en parler à mes étudiants pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la subjectivité romantique, mettons. Là, mais quand vient le temps de faire des recherches dans le domaine des études culturelles, là, je me verrais mal parler de heavy metal ou de air guitar, par exemple, parce que j'ai pas ce background-là, ça fait pas partie de mon vécu. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de très incarné dans la conception que j'ai des cultural studies, là, comme il faut qu'on le sente viscéralement en quelque sorte, là. Mais en même temps, pour éviter là, genre, l'épanchage très très subjectif de sa petite expérience personnelle, moi je voulais inclure à cette incarnation-là une dimension intellectuelle, avec une perspective théorique claire qui tâche d'organiser ce matériau incarné-là, si on veut.
Oui, mais c'est aussi, ça vient d'une profonde familiarité. T'sais, effectivement, il faut le sentir, mais ces heures d'écoute et ces heures de vécu dans ce domaine-là fait en sorte, à mon avis, là, c'est somme toute très personnel comme théorie, mais avoir passé le 10 000 heures de Malcolm Gladwell fait en sorte que tu peux intellectualiser la théorie de Malcolm Gladwell, c'est que tu deviens un expert sur quelque chose dès que tu as passé 10 000 heures dessus. Et qu'après 10 000 heures, c'est du pur intellect. L'appréciation est toujours là, mais tu deviens fondamentalement un expert. Puis en devenant un expert, tu es capable à la fois de vivre le truc dans une appréciation esthétique, juste parce que tu aimes ça, mais aussi capable d'intellectualiser. Puis à mon avis, ben, du moins, c'est ce que le livre donne l'impression, tu l'as passé ton 10 000 heures. Tu as passé ton 10 000 heures de mixtape.
C'est fort probable, mais en préparant là, l'entrevue d'aujourd'hui, je repensais à mon parcours là, personnel par rapport à la musique, puis comment j'étais entré en contact avec les musiques électroniques au sens large. Ça m'a un peu forcé à réfléchir au fondement, si tu veux, là, de cette passion-là. Puis c'est drôle parce que je suis originaire du Lac-Saint-Jean, tu sais, puis en grandissant dans les années 80 à Alma, on n'avait pas nécessairement accès à la musique underground. Ou, tu sais, moi, quand j'étais très jeune, tu sais, c'était Def Leppard puis Samantha Fox là, qu'on écoutait, là, tu sais, que j'ai vu en show. Samantha Fox était venue donner un show à Alma en plus, quelque part au milieu des années 80. Mais il ne faut pas négliger, surtout dans le contexte là, québécois, il ne faut pas négliger le rôle que jouait Musique Plus dans l'éducation musicale. Ça n'a plus ce rôle-là maintenant, malheureusement. Là. Mais il y a 20, 25 ans, Musique Plus a joué un rôle central, si on veut, dans la diffusion d'esthétique musicale, venue d'un peu partout. Puis là, ça rentrait dans tous les foyers de la province, et notamment le New Music, qui était l'émission de Claude Rajotte à l'époque, qui présentait de la musique alternative, tu sais, puis il présentait des clips de Depeche Mode, d'Indochine, whatever, mais aussi à la fin des années 80, il s'est mis à présenter des clips d'artistes anglais comme The KLF, 808 State, S-Express même, qui permettait de découvrir un univers qui pour moi m'était à ce moment-là, complètement étranger. Puis c'est drôle parce que la musique électronique, le house, le techno, sont nés à Détroit, à Chicago, sont nés aux États-Unis, mais c'est surtout par le prisme européens nous sont revenus en quelque sorte, là, parce que les artistes que je te nommais tout à l'heure, c'est tous des artistes britanniques. Il y en a d'autres que qui vont avoir découvert cette musique-là par le prisme allemand, t'sais. D'autres par le prisme belge, par le new beat, tout ça, sinon par le hardcore hollandais, tout ça. Dans mon cas, à moi, ça venait de ce que l'Angleterre avait à proposer. Puis j'avais une amie qui est allée passer son secondaire 5 à Londres pendant un an, un échange étudiant, là. Puis quand elle est revenue de Londres en 89, elle avait apporté des mix enregistrés de DJ, tu sais, parce que là, la scène rave était en train tranquillement de prendre son essor en Angleterre.
Wow.
Fait qu'elle était revenue à Alma, ou à Saint-Jean, avec des mixtapes, donc c'était littéralement des mixtapes, donc sur cassette. Puis là, elle m'avait fait entendre ça, puis c'est là que j'ai découvert peu à peu que cette chose-là existait. Puis ça a coïncidé. Mon intérêt là, pour ce genre de musique-là a coïncidé aussi avec mon déménagement à Montréal. Là, j'étais venu faire mes études littéraires à l'UQAM. Puis, en 92, c'était aussi l'année où les premiers raves montréalais ont commencé à apparaître.
Instigé par Tiga, c'est ça que tu disais?
Ouais. Comme Tiga est considéré comme un des premiers instigateurs de la scène techno-canadienne. Puis c'est à Montréal que ça a pris son essor. Puis je me souviens, là, en 92-93, d'être allé dans des parties, dans des warehouses abandonnés sur Saint-Laurent, là où il y a mon coco, quelque chose là, au coin Montréal-Saint-Laurent. Là. Je suis déjà allé là-dedans danser. Ouais. Il y avait 200-300 personnes. Puis c'était les début de cette underground électronique-là qui commençait là, à émerger à Montréal. Fait que j'ai baigné là-dedans, mais pas de manière intense ou soutenue. C'est jamais devenu un mode de vie.
Okay.
Tant qu'à faire des la tranche de vécu ou des confessions. Moi, j'ai jamais consommé de drogue. Là. J'ai jamais pris d'ecstasy, de MDMA, tout ça, de speed ou quoi que ce soit. Fait que danser toute la nuit, moi, à un moment donné, j'étais plus physiquement capable. Là, puis j'avais pas cette curiosité-là. Donc, j'y allais pour la musique, beaucoup plus pour apprécier la musique que pour le genre de feeling d'abandon que apparemment tu ressens quand tu consommes là, la MDMA ou des choses comme ça. Puis l'intérêt pour la musique, c'était poursuivi là, dans les années subséquentes. Là, j'avais une émission sur les ondes de CISM pendant 5-6 ans là, où je présentais les nouveautés en termes de musique britannique. Là. Donc, il y avait beaucoup de Britpop. Là, 95-96, là, c'était l'arrivée de Blur, de Elastica, de Oasis, tout ça. Puis en même temps, la scène Electronica, qu'on appelait à l'époque là, fin des années 90, The Prodigy, Underworld, Chemical Elastica. Brothers, commençait véritablement avoir un impact de ce côté-ci de l'Atlantique. Là, je me souviens, l'album des Prodigy était sorti en Amérique du Nord, puis il avait été numéro un au Billboard. Là. Il y avait un engouement là, pour la musique électronique. Oui. Puis des trucs plus underground là, qui venaient d'un label comme Warp, par exemple, avec Aphex Twin, B12, LFO, ce genre d'artistes-là. Fait que c'est l'intérêt pour la musique électronique, là, mm-hmm. plus que pour la danse qui lui est associée, se poursuivait là. Puis, à un moment donné, j'ai été recruté par le site web Resonant Advisor, qui est un peu l'équivalent électronique de Pitchfork. Là.
Okay.
C'est Pitchfork qui est le spécialiste de la musique indie rock. Resonant Advisor se présente là, comme un site qui est très, très pointu et qui se spécialise dans la promotion des musiques house, techno, grosso modo. Puis j'ai été chroniqueur pour eux là, pendant à peu près 5-6 ans aussi. Puis c'est dans le cadre de ces chroniques-là, notamment quand je devais faire la critique de mix de DJ, que là, j'avais commencé à réfléchir à qu'est-ce qui caractérise, donc ce serait quoi les éléments d'une poétique de ce genre d'œuvre. Évidemment, c'est dans un contexte journalistique. C'était pas le temps de présenter mes analyses très, très approfondies. Mais en travaillant sur Poétique du mixtape, j'ai réalisé que ces années-là passées comme chroniqueur, elles ont beaucoup aidé à façonner ma réflexion.
T'en recites, en fait. il y a certaines chroniques que tu reprends, certaines observations des critiques d'albums que tu reprends parce que tu te dis, ben regarde, en deux phrases, succinctement, j'avais réussi à toucher à quelque chose.
C'est ça. Ici, en retournant lire des vieilles critiques de disques que j'avais écrites il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé que les germes de ma réflexion, ils avaient déjà été plantés comme ça. Fait que c'était une manière pour moi de... Parce que j'ai souvent culpabilisé en écrivant ces articles-là, parce que j'avais l'impression que ça m'éloignait d'articles scientifiques ou académiques sérieux qui allaient compter dans mon CV à titre d'universitaire. T'sais. Alors que là, j'écrivais des articles pour un site web qui m'apparaissait un peu perdu. T'sais. En plus, c'était en anglais, puis c'est pas ma langue maternelle. Puis ça me demandait quand même écrire un deux feuillets. Ça me demandait plusieurs heures de travail. Et j'avais l'impression que je faisais un peu ça pour rien. Je le faisais par passion. Puis j'avais beaucoup de fun à faire tout ça, mais en même temps, je vois comment j'ai pu me réconcilier avec le temps passé à réfléchir à des mix de DJ pour les critiquer, parce que finalement, il y avait déjà là
les germes de ce qui deviendrait peut-être du mixtape. Je trouve que ça informe très bien le livre. Ça fonctionne très bien d'avoir ce plus jeune Stéphane qui est là et qui dit 3-4 trucs bien pensants au bon moment. Fait que non... C'est drôle parce qu'on pense à la poétique du mixtape, puis en même temps, le livre est un peu un mixtape de tes textes. Il y a des textes anciens, il y a des textes de toi, il y a des textes...
Moi, je n'avais pas vu ça comme ça, mais ça... Très bonne remarque.
Toujours un plaisir de faire un peu du non-lire, mais il y a vraiment du sampling. Tu te samples toi-même et tu samples plein d'autres gens, comme Simon Reynolds, qu'on connaît assez bien à cause de... C'est l'auteur de Retromania.
Oui, oui, oui.
Puis bon, moi, évidemment, j'ai une affection pour Nicolas Borio.
Pris la pensée saussurienne pour réfléchir, ça fait plus... Tu sais, les mythologies de Roland Barthes, là, c'est en 57, là. Je prétends aucunement que j'ai découvert quelque chose de soudainement inusité et de singulier. Là.
Non, mais je pense que tu rends service à l'intellectuel comme le cas de figure, en étant capable de prendre... ces idées-là que quand tu dis à quelqu'un, tu sais, je suis en train d'étudier Ferdinand de Saussure, tout le monde a comme un petit réflexe de comme, oups, OK, on est dans le grand intellectualisme, puis dire, non, regarde, je prends une de ces idées et je l'applique sur quelque chose qui est compréhensible, je le dissèque, je veux même pas dire prémâché, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, je calque ces théories-là pour les rendre digestes, pour les rendre compréhensibles, pour les rendre réutilisables ensuite. Fait que je trouve ça très important ce que tu fais.
Moi, ça m'apparaissait singulier parce que, je t'explique pourquoi, là, c'est que quand j'ai commencé à faire ma revue de la littérature là, pour déblayer le terrain sur qu'est-ce qui avait été dit au niveau académique, scientifique, sur l'univers du DJing, j'ai rapidement constaté que les approches, elles se voulaient surtout sociologiques. Puis c'est pas étonnant parce que la musique techno, il y a plusieurs personnes qui se réunissent dans un lieu pour célébrer. Fait que c'est une expérience, par définition, collective. Ouais. Fait que c'est pas étonnant que la sociologie se soit emparée de la problématique la première. Sinon, l'ethnologie, donc une sociologie plus participative, si on veut. Là, les ethnologues aussi sont allés participer à des raves, puis ils ont décrit qu'est-ce qu'ils avaient vécu, puis ils ont rapporté ça dans leur texte. Puis, que ce soit en anglais, que ce soit au niveau anglais, en Angleterre, là, les recherches qui ont été faites là-bas, que ce soit aux États-Unis, au Canada anglais, en France, c'est surtout des recherches donc socio-ethnologiques que j'ai rencontrées. T'sais. Puis, je te donne l'exemple là, de Simon Fritt, là, qui est un sociologue spécialisé en études de la chanson populaire, puis qui est une des sommités là, dans le domaine. Là. Lui, il insiste sur l'idée que ce soit en rave, que ce soit dans un club, que ce soit dans un party officiel, un festival, la rencontre entre le ou la DJ, la musique qu'ils vont faire jouer, et les danseurs, danseuses qui reçoivent cette musique-là, ensemble, ils participent à une expérience esthétique collective qui se dissout aussitôt que la fête est terminée. Un peu comme si tout le monde participait à un genre de pièce de théâtre improvisée, tu sais, ouais. où il n'y a plus de distinction entre les performeurs et les spectateurs.
Ouais, tout le
c'est
monde...
une expérience très bactinienne, finalement. Là, c'est le carnaval où les hiérarchies sociales habituelles se défont, l'espace de la fête, pour ensuite se remettre en place une fois que la
ça a son usage dans la société, que ça
permet, c'est ça, ça nous coupe de notre quotidien, ça nous éloigne de nos problèmes, de la réalité plus prosaïque, banale. Ça nous permet d'entrer dans des rapports plus égalitaires, parce que hein, le fameux PLUR, le P-L-U-R, le Peace, Love, Unity, Respect, là, qui est comme un peu l'idéologie au cœur du mouvement rave. Là. Donc, la paix, l'amour, le respect d'autrui, accepter les différences, tout ça. Le rave, l'idéal, en tout cas, rave, c'est un genre de société post-raciale, post-genrée, tout ça, puis où tout le monde est sur un genre de pied d'égalité. Souviens-toi dans, je pense que c'est dans le Matrix 2, là, il y a une scène de fête là, à Zion Party. Là, je regardais ça sur YouTube là, hier pour me remettre dans le bain. Puis bon, il y a une dimension pratiquement orgiaque là, qui accompagne la fête. Puis c'est important de rappeler que le mouvement de la danse lui-même, ça relève plus de la motilité que de la motricité. Là, les gens sont pas en train de bouger pour se rendre à quelque part. Ils bougent pour rester sur place. Puis c'est le mouvement pour le mouvement lui-même. Mm-hmm. C'est lui qui participe, hein, qui alimente cette rencontre carnavalesque. Mais qu'en est-il? Puis là, puis quand je lisais tous les sociologues, ils s'entendaient tous et toutes là-dessus. Là. Puis quand il y a un genre de consensus qui s'établit, ça m'apparaît toujours un peu débilitant comme intellectuel de constater ça. Puis là, je me disais, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je ne reconnaissais pas dans ces écrits-là certaines parties de mon expérience à moi. Puis, tu sais, la sociologie, c'est la discipline du grand nombre, en quelque sorte. C'est les sociologues qui s'intéressent aux moyennes, puis si 90% de la population a fait telle affaire, ben la sociologie va s'intéresser à ça. Mais moi, c'est le 10% qui reste qui m'intéresse aussi. Puis on peut pas blâmer les sociologues de pas être des psychologues. Chacun son métier. Là. Mais il y avait des... Il me semblait qu'on faisait fi de certains éléments plus subjectifs au sens d'individuel. Bon, tu disais tout à l'heure là, que tu n'as pas une expérience personnelle très grande des
pas
clubs,
du tout.
Tout ça. T'sais. Mais dans les clubs, oui, on peut vivre pendant un nombre X de minutes, d'heures, une expérience vraiment là, qui se rapproche de la transe, où tu sors de toi-même en quelque sorte, puis tu oublies tes problèmes, ton quotidien, tu oublies qui tu es, tu oublies où tu te trouves, puis tu jouis du moment présent.
Ouais.
Mais en même temps, moi, pour l'avoir vécu et pour en avoir été témoin, en club, c'est aussi possible de se faire chier.
Absolument.
Ce n'est pas vrai que l'ensemble du groupe qui participe à cette fête collective-là a du fun. C'est pas vrai. Là, les sociologues, les ethnologues, il n'y a personne qui en parle de ça. Danser sur un plancher gommant, par exemple, parce que des gens ont échappé de la bière, il y a une gomme à terre, tu te fais marcher sur les pieds. Oui. Là, c'est plus le cas maintenant là, au Québec, mais il y a 15 ans, on pouvait fumer dans les clubs. Moi, je souffre de rhinite chronique. Là. Ça ruinait mon expérience, parce que je n'étais plus capable de respirer. Il y a des gens aussi qui sont dans un club, pas parce qu'ils veulent faire la fête, mais pour d'autres raisons. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils travaillent dans le club. T'sais, je me souviens, quand tu vas voir, par exemple, un concert, il y a toujours des agents de sécurité. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment la musique qui est en train de jouer sur la scène derrière eux. Il y a des gens qui sont là pour le travail, les barmaids, les barman, waitress, whatever. Il y a des gens qui sont là... Il y a des dealers de drogue, il y a des gens qui sont là juste pour commettre des larcins, il y en a qui veulent peut-être voler les portefeuilles, pickpocket. Il y a des gens qui vont là pour se chercher des partenaires amoureux, sexuels, socialiser. Il y a des gens qui suivent leurs amis parce que
ils sont un peu boutons, puis ils vont accompagner le reste de la gang, mais ils n'ont pas plus de plaisir que ça. Fait que finalement, la réalité, elle est beaucoup plus diversifiée que ce que les recherches en sociaux puis en ethnologie laissent entendre. Fait que ça, il y avait déjà un élément là qui, pour moi, là, était problématique, que je voulais, investiguer. Mais surtout, ce qui m'énervait, puis c'est ça qui est devenu un point central là, dans mon livre, si bien j'ai même mis un truc en exergue là, pour dire à quel point c'est important. La musique semblait subordonnée à la danse dans toutes les réflexions socio-ethnologiques. C'est-à-dire, puis là, je te cite là, un passage là, d'une chercheure française, là, qui, Anne Pétiot, pour ne pas la nommer, où elle affirme que la techno n'existe pas sans la fête, presque toujours conçue pour la générer. Autrement dit, la musique techno ne s'écoute pas assis tranquillement dans un fauteuil. Donc, souvent, pour les sociologues, la manière qu'on a de concevoir les œuvres musicales issues de cette scène-là, c'est dans une perspective très fonctionnelle, utilitaire. Mm-hmm. Et on leur nie la
profondeur
esthétique. On nie aux producteurs, productrices de musique techno le fait que ces musiques-là, elles sont aussi des œuvres artistiques. Là.
Absolument.
On peut les aimer, on peut pas les aimer, on peut. C'est... Mais il y a quelque chose
de hiérarchisant dans ces
propos-là.
Ben oui.
Et ça, en ce qui me concerne, c'était inacceptable. Puis l'idée qu'il faut à tout prix que, pour être jugé recevable, que la musique fasse danser, sinon la musique vaut rien. Ça fonctionne pas. De toute façon, la musique dance, au sens très très large comme méta-genre, mm-hmm. ça n'a pas le monopole sur les réactions corporelles. T'sais, un fan de rock va réagir physiquement à la musique qu'il entend, les fans de pop également. Même la musique classique, moi je suis pas fan de musique classique, mais je suis capable d'imaginer quelqu'un qui va, avec sa main, mimer le mouvement d'un chef d'orchestre, par exemple, pour suivre le tempo de ce qu'il est en train d'entendre. Fait que c'est pas vrai que la réaction corporelle, elle est intrinsèquement liée à la musique techno. N'importe qui écoute le rythme lui-même, il va être associé.
Oui, un hochement de tête.
Ben, c'est ça, on bouge la jambe, les orteils. Moi, quand je conduis, il y a toujours une partie de mon corps qui est en train de bouger parce qu'il y a de la musique qui joue en background. Fait que là, je réalisais que ce que les sociologues, les ethnologues qui se spécialisaient dans l'étude de la musique électronique, ce que ces gens-là, ce sur quoi ils s'entendaient, ça ne correspondait pas à mon expérience, mm-hmm. à mon vécu. Notamment parce que la musique électronique, dans mon cas à moi, je l'écoutais pas mal en dehors du contexte des discothèques. On peut l'écouter à la maison, on peut l'écouter dans sa voiture, comme je viens de le mentionner, sinon avec l'arrivée des iPods, des lecteurs portatifs, même les Discman, là, j'ai traîné un Discman pendant des années pour écouter des mix de DJ sur disque compact. Maintenant, tout ça va sur mon téléphone. Tu peux écouter ça sur la rue, au gym, dans une bibliothèque, au Starbucks, en lisant. T'sais, finalement, la musique électronique, elle peut t'accompagner partout et elle peut faire fi de toute réaction corporelle, dansante, qu'on nous présente comme étant absolument nécessaire. Une fois qu'on enlève le contexte festif, qu'est-ce qui reste? Ben là, il y a une œuvre musicale, et c'est cette œuvre musicale-là qui est l'objet du livre Poétique du mixtape, dont tu vantais les mérites tout à l'heure.
Oui, mais en même temps, j'aime beaucoup ta réponse. Je trouve que merci d'avoir clarifié ça, parce que je trouvais que dans le livre, il y avait très peu de place qui était laissée à l'expérience. Il n'y avait pas d'analyse de la réception. Puis maintenant que tu me dis ça, ben, je le comprends totalement, parce qu'il faut que tu parles de l'artiste.
Ben, ces analyses-là, c'est ça. À mon sens, elles ont en partie déjà été faites.
C'est ça, ils ont été faites par les sociologues.
Apporter quelque chose d'autre au moulin. Puis je te dirais que l'intuition qui a vraiment été centrale, puis ça a été un peu un hasard, puis c'est la fameuse sérendipité, là, le fait que nos recherches parfois peuvent prendre un tournant inattendu parce qu'on rencontre au détour d'une lecture, tu sais, une notion qu'on ne connaissait pas. Puis bon, moi, je connaissais les travaux de Saussure en linguistique parce que j'ai un doctorat en sémio. Là, j'étais familier avec signifiant, signifié, forcément. Là. Mais en devant, l'université où j'enseigne en Ontario là, m'avait demandé de donner un cours d'introduction à la linguistique. T'sais. Mais moi, j'étais très familier avec le versant, si on veut, sémantique, mais le versant plus formel de la linguistique, tu sais, quand on remonte jusqu'à la phonologie, phonétique, tout ça, j'étais pas du tout familier avec ça. Fait que j'ai dû replonger un peu contre mon gré dans l'univers de la linguistique, c'est parce que j'avais un cours à monter là-dessus. Puis c'est comme ça que je me suis pas réconcilié avec Saussure parce qu'il n'y avait jamais eu de dispute, mais où j'ai redécouvert certains éléments de la pensée saussurienne, puis je savais tout à fait là, que ça a été galvaudé depuis les années 20, 1920-1930, par autant Jacobson que Roland Barthes, tout ça. Puis avec l'arrivée du post-structuralisme, l'analyse du discours, la linguistique énonciative, c'est difficile de reparler Saussure en toute innocence. Il y a toute une série de réflexions, puis je suis conscient de ça, là. Mais il y avait cette institution-là, elle était centrale là, par rapport à l'argumentaire que j'ai tâché de développer. C'est qu'il m'a semblé que ce que les DJ font, c'est la même chose que le sujet parlant décrit par la linguistique fait. Mm-hmm. Qu'est-ce que fait une personne qui prend la parole, puis là je prends parole au sens très très saussurien justement, au sens structural. Le sujet parlant va devoir sélectionner des mots, des signes, à même un lexique, un bassin de mots potentiels que sa langue met à sa disposition. Il va devoir donc, pour s'exprimer, sélectionner des unités lexicales et ensuite il va devoir les combiner entre elles pour former un syntagme. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash que le DJ fait, ou le ou la DJ font exactement la même chose. Mm-hmm. Il sélectionne des unités à même un lexique, entre guillemets. Là,
qui est le catalogue de la musique humaine.
Oui, leur discothèque personnelle, qui est elle-même un fragment de la sonosphère plus large. Là. Et ils sélectionnent et ils combinent pour former aussi un syntagme qui est leur set de DJ. Mm-hmm. Fait que ce set-là, tu le vives ou que tu le reçoives in situ, dans un club, un festival, un rave, tout ça, ou que ce soit une version enregistrée, en ce qui me concerne, le processus est le même.
Le syntagme est là, c'est la même phrase.
C'est la même phrase. C'est pas la même utilisation au niveau pragmatique qui va en être faite, mais au niveau de son octorialité, c'est le même principe sous-jacent. Les DJ sélectionnent, combinent pour former une phrase, entre guillemets, qui est leur mix. Ouais. C'est sûr que d'analyser cette phrase-là dans un contexte festif, c'est plus difficile parce qu'il faut que tu la... À moins que si tu es un ethnologue, tu peux te présenter, prendre des notes, tout ça. Dans mon cas, je trouvais ça plus simple de travailler sur des objets factuels, pour employer l'expression de Gérard Genette dans l'œuvre de l'art. Là. Les mix de DJ, ce sont des œuvres immanentes, factuelles. Non pas des œuvres événementielles, mais des œuvres factuelles. C'est un objet là, que tu peux prendre, amener chez toi, puis l'apprécier avec ta chaîne stéréo. Donc, le DJing, c'est un langage. Ce constat-là, c'est le constat de toute sémiologie européenne. Moi, je suis pas très persien, je suis plus européen dans ma conception de la sémio. Mais j'admets, je découvre rien d'inédit ici, mais je fais juste constater qu'il y a une forme de parole qui est mise en place. Et là, moi, je m'intéresse dans mes réflexions à qui parle au juste. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que nous, comme sémiologues, on peut dire de cette parole-là? C'est ça qui a alimenté la méthode là, que je mets en place dans le bouquin. Puis juste à titre de rappel, puis j'inviterai le public à aller consulter le livre pour avoir plus de détails, là, mais je rappellerai que c'est un mot que va sélectionner le sujet parlant. Il vient avec, il y a son sens le premier, son sens dénotatif, il y a toute une série de connotations qui gravitent autour d'un terme qu'on utilise, tout ça. C'est un peu la même chose avec les unités musicales que les DJ sélectionnent. C'est une unité musicale, elle vient avec une série d'informants plus objectifs. T'sais, elle va avoir un titre, même les pièces qui s'intitulent Untitled, c'est déjà un titre là, de toute façon. Mais que le titre est déjà en train de communiquer quelque chose au niveau linguistique. Le DJ ou la DJ, ou toi, les producteurs qui ont enregistré là, cette chanson-là, ils ont un nom qui souvent va renvoyer à leur genre. Un artiste comme DJ Pierre, mettons, je donne un exemple d'un
d'un des pionniers là, de la scène house et acid à Chicago. Ben, DJ Pierre, déjà, lui a enregistré des chansons acid house, mais quand tu vois que l'unité a été produite par quelqu'un qui s'appelle DJ Pierre, tu l'associes à une certaine forme de masculinité, parce que dans notre culture, le patronyme Pierre
est masculin.
Il est connoté comme étant masculin.
Mais aussi l'Europe. T'sais, ou l'Europe, ou le Québec, là, mais Pierre est un nom francophone. On se retrouve très rarement à avoir des Pierres aux États-Unis.
Tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais il y a cette... Fait que finalement, tout signe peut s'ouvrir à une série de liens potentiels, ben de connotations éventuelles, auxquelles on pense pas nécessairement à la première écoute. Là. Fait que là, DJ Pierre, il a produit sa musique à Chicago au milieu des années 80. Fait que si moi... comme DJ, j'inclus une chanson de DJ Pierre dans un de mes sets. Je suis en train de faire un clin d'œil à la ville de Chicago, à la naissance de la scène acid house. Je suis en train de me référer à une période temporelle précise. Fait qu'une unité musicale sélectionnée par des DJ, elle vient avec tout un bagage sémantique, puis elle a aussi un capital symbolique qui va changer dépendamment de où elle est utilisée, par qui, tu sais, parce qu'il y a certaines chansons, certaines pièces qui vont se doter d'une aura parce qu'elles sont rares, elles sont nouvelles.
Oui.
Il y en a d'autres qui vont devenir injouables parce qu'on les considère overplayed, tu sais. Puis encore une fois, ça va dépendre de qui la joue et de qui l'entend. Mm-hmm. Parce que, mettons, donnons un exemple contemporain, le Get Lucky de Daft Punk. T'sais. Si tu entends ça dans un club underground, les gens vont rouspéter parce que ils vont considérer que c'est rendu une chanson pop et que ça n'a pas d'affaire dans un club underground. Si tu es dans un mariage, puis que là, c'est le DJ de Disco Mobile qui fait jouer la toune, tout le monde risque de se lever puis de se mettre à danser. Puis là, la pièce va être reçue avec euphorie. Mm-hmm. Fait que finalement, le capital symbolique lié à une chanson va beaucoup dépendre du contexte où la pièce se retrouve à être sollicitée.
Et même la personne qui l'utilise. Parce que si Giorgio Moroder utilise Get Lucky, ça veut dire autre chose.
Ça cadre parce que, bon, il a participé à l'album de Daft Punk et tout ça. Il y a un lien entre lui et cette musique-là. Tandis que si c'est un DJ underground qui la joue, ben là, il risque de se faire regarder de travers par ses fans en disant qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de ton syntagme.
Là. Ouais. Oh, wow.
Donc, en faisant ça, là, les DJ, ils finissent par donc nous communiquer quelque chose là, en agençant, en sélectionnant puis en les agençant ces unités musicales-là. Les DJ finissent par nous communiquer quelque chose.
Quelque chose.
Mais là, ben là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une méthode qui pourrait rendre compte de ce dire-là. Qu'est-ce que le mix est en train de nous dire? Là.
Bon, oui.
Puis le DJ français Yvan Smag, il disait dans une entrevue cet été, là, en 2018, là, un mixtape, c'est un peu l'équivalent du selfie pour un DJ. C'est une manière de prendre une snapshot de qui le ou la DJ est à un moment précis de sa carrière en enregistrant un mix d'une heure, en le faisant circuler sur le web, par exemple, ou en l'enregistrant pour une série de mixtapes sur disque compact, par exemple, ça existe encore. Là. Là où la DJ est en train de donner une image de soi.
Oui.
Que moi, j'ai... Non, mais c'est pas un soi que je considère référentiel. Là. J'ai pas le feeling, j'ai pas l'impression là, que la phrase est en train de nous dire se rapporte, ou elle est embrayée, pour parler en linguiste, sur la personne même.
Ben, en même temps, moi, c'est là où je trouve que l'affirmation est belle. Parce que le selfie met le sujet au centre. Puis c'est de dire que le mix du DJ est une manifestation, que le DJ ne peut pas se séparer de son mix. Il est au centre du mix autant qu'il
est. Il est au centre du mix, puis en même temps, il s'en retire parce qu'il laisse parler les œuvres musicales des autres en son nom. Donc, cette dialectique-là, qui ne se résout finalement jamais véritablement. Non, mais c'est pour ça que c'est une conception complexe là, au sens morinier que je propose de l'œuvre des DJ. Parce que le DJ, il s'affirme par l'intermédiaire du mixtape. En même temps, qu'il ou elle s'efface et se retire. Tu sais. Puis nous, au niveau de la réception, on se doit de gérer
C'est qu'est-ce que le mixtape veut dire,
de décoder
à même
cette, qu'on a.
Cet interstice-là, là, où on, les DJ fonctionnent, ou se mettent en scène en même temps qu'ils nous abandonnent, en quelque sorte. Là,
Oui, oui.
C'est du côté de la réception que le sang. Fait que là, peut-être qu'à ce niveau-là, ma perspective, elle est pragmatique. Qu'est-ce que, à la réception, les auditeurs, auditrices, comment au niveau de la réception, est-ce qu'on peut faire tenir, entre guillemets, le sens de cet énoncé-là? Là?
Oh, oui.
Donc c'est pour ça que le rôle de ce que j'appelle dans le bouquin là, les écouteurs. Puis là, je joue sur la polysémie du terme. T'sais. Une paire d'écouteurs, c'est ce qui nous permet, seul à seul, d'entrer en relation avec l'œuvre. Mais aussi, donc, écouteurs au sens de headphones.
Ouais, ouais.
Mais écouteurs aussi au sens de listener. Là. Quand on écoute, avant même qu'il y ait une réaction physique, qu'on peut danser en club, mais on peut juste
taper du pied,
bouger sur le fauteuil de sa voiture, peu importe. Au niveau du listener, il y a un rôle à jouer pour permettre à cette phrase-là donc de tenir et de permettre à l'image des DJ, cette image de soi qui se dégage du mix, de tenir. Là, c'est du côté de la réception que
cette construction-là
se tient en place.
Ouais. Ah non, c'est ça, c'est exactement ça. Tu viens de prouver encore mon point, je trouve ça absolument fascinant. Ce qui se passe dans le livre.
Puis, question de terminer là, l'analogie avec la linguistique. En cours de route, j'ai réalisé... les linguistes, puis remontons jusqu'à Jacobson, là, s'entendent pour dire que quand vient le temps de produire des syntagmes, il y a deux grandes figures de style là, qu'on retrouve dans nos productions phrastiques, là, qui sont la métonymie puis la métaphore. Et en observant mon corpus, puis composé là, de centaines d'œuvres enregistrées de DJ, j'ai réalisé qu'on pouvait prendre les figures de la métaphore et de la métonymie pour présenter une ébauche de typologie.
Mm-hmm.
Les mixtapes, les prestations enregistrées de DJ ne sont pas toutes pareilles. Elles adhèrent à des stylistiques différentes. Nonobstant le genre musical lui-même, un DJ va adhérer, par exemple, au genre du drum and bass ou du post-dubstep ou du electro-house ou peu importe. Mais
la construction des syntagmes n'est pas dépendante du genre musical qu'ils utilisent
pour construire ces syntagmes. Non, il y a certains genres musicaux qui vont plutôt interpeller une stylistique métaphorique. Une métaphore, hein, c'est quand tu as deux choses contradictoires qui entrent en relation de contiguïté, en quelque sorte. Souvent, un DJ qui va mixer deux chansons de genres complètement différents. Diplo, par exemple, est bon là-dedans. Too Many DJs, les Belges, là, ils en ont fait une spécialité. Donc, quand tu as des unités musicales de genres très fortement contrastés qui entrent en relation de contiguïté, on peut dire que le DJ a un style métaphorique. À titre d'exemple de mixing métaphorique, je vais te faire entendre un extrait de 5-6 minutes là, du mixtape Fabric Live 09 de Jacques Lucon qui avait été lancé en Angleterre en 2003. ce qu'on constate, là, ce qu'on a entendu là, dans, au courant des dernières minutes, on a eu un extrait de la pièce Remind Me de Roy Sop dans une version remixée. Il y a eu Also Sprach Zarathustra de Strauss, qui est un morceau de musique classique des plus canoniques.
Là. Ah oui.
Enchaîné avec Sweet Dreams de Eurythmics. Une chanson que, personnellement, j'ai toujours haï, parce que j'étais là dans les années 80 quand c'est apparu, j'ai toujours haï cette tune-là. Mais Jacques Lucon, sur son mix, il rend son intégration absolument fascinante. Puis là, tu as vu, on est passé d'un remix house à une pièce de musique classique complètement pompeuse. Tu peux jamais entendre cette chanson-là sans penser au film de Kubrick, puis il y a toutes les connotations qu'il y a derrière. Puis après ça, enchaîner avec une chanson synth-pop des années 80. Là, ici, t'as plein de choses qui se mélangent. T'as des temporalités différentes, au niveau géographique aussi. Il y a toute une série de connotations qui entrent en ligne de compte. Puis, en termes stricts de mixing, t'as un agencement de trois chansons radicalement différentes où t'es capable de reconnaître que chacune des chansons garde son individualité. Et là, t'as un bel exemple de mixing que j'appelle métaphorique. La métonymie, elle implique qu'il y a un lien plus étroit de continuité entre les éléments. Pensons à des DJ de techno minimal, comme, je sais pas moi, Richie Hawtin, qui va déconstruire les pièces musicales qu'il sélectionne pour en garder seulement des snippets, là, des okay. petits bouts, des échantillons qu'il va ensuite réorganiser à même son mix, si bien que quand à l'écoute, l'individualité de chacune de ces pièces-là se défait.
Oh, ouais.
Puis là, ce que tu constates, c'est que le DJ est en train de créer une nouvelle chanson à partir d'éléments épars, mais elles sont tellement intrinsèquement liées que c'est plus difficile de saisir la séparation entre les unités, mais leur individualité. Et là, ça relèverait de ce que j'appelle un mixing plus métonymique. Là. Et il y a des genres musicaux qui se prêtent bien à ça, notamment le techno, parce qu'il est construit sur une rythmique 4-4 là, qui est plus facilement sécable, c'est plus facile de découper ça.
Okay.
Le house progressif, le psytrance, qui sont des où les unités musicales sont souvent très, très, très mélodiques. Si le DJ est capable d'identifier les tonalités de chacune de ces pièces-là, puis les agencer ensemble pour que ça fit en bon français,
ouais.
À l'audition, tu verras même pas. Ça va faire 15 minutes que tu écoutes la musique et tu t'auras même pas senti que tu as changé
de musique musicale. Ouais,
ça serait donc un style de DJing métonymique. Là. En termes de mixing métonymique, je me référerai cette fois-ci à un DJ originaire des Pays-Bas qui s'appelle Joris Voorn, tiré de son album Balance 14, paru pour sa part en 2009. qu'on constate ici, là, c'est le début du mixtape. Tu as probablement pas remarqué pendant les 4 minutes que l'extrait a duré qu'il y avait 4 chansons qui jouaient en même temps. Tu as probablement eu l'impression que c'était une seule composition. Wow. Dans ce cas-là, tu avais les artistes Imps, Homme, Nick Solé et Les Chocolats qui se retrouvaient à avoir été sélectionnés par Yoris Vaughn et qui ont été réduits à quelques petits éléments sonores et qui ont été entrelacés. Ces éléments-là ont été mélangés les uns aux autres pour créer ce début du syntagme-là, là, du mixtape Balance 14. Mais dans ce cas-là, on a du mal à saisir ou du moins à entendre la distinction entre les pièces.
Ouais, à différencier qu'est-ce qui appartient à quelle pièce.
Quand on regarde là, la liste des artistes qui sont sélectionnés pour enregistrer le mixtape, on voit qu'il y a 51 chansons différentes qui ont été utilisées pour enregistrer un mix d'à peu près 1 heure et quart. Fait que ça veut dire que Yoris Vaughn, il travaille avec beaucoup, beaucoup de matériaux qu'il déconstruit et réagence par la suite, sans que à l'audition, à moins que tu sois, mettons, si tu es un fan de Imps, de Homme, de Nick Solé, puis que tu connais à l'avance ces chansons-là, tu vas peut-être réussir à reconnaître les éléments qui ont été sélectionnés, isolés, puis amplifiés par le DJ. Sinon, tu n'y vois que du feu. Puis le mixing métaphorique, il va surtout chercher à lisser les différences plutôt que de les mettre de l'avant. Ouais. Les DJ disco, surtout que les tunes disco là, de la fin des années 60, des années 70, elles avaient été enregistrées avant les protocoles MIDI. Avec souvent, les tempos sont pas nécessairement synchronisés. Là. Fait que pour un DJ qui essaie de mixer des chansons disco, ça devient un peu plus laborieux. Fait que parfois, à l'audition, tu vas pouvoir remarquer un net clivage entre le passage d'une chanson à l'autre. Là, tu as affaire à un style métaphorique. Mais tu vois, dans les deux cas, je ne suis pas en train de porter de jugement axiologique. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un des deux styles qui est meilleur, que les DJ disco sont plus ont plus de dextérité que les DJ de house progressif. Mais en proposant là, des éléments de typologie comme ça, l'idée, c'est d'aborder cet objet-là de manière objective en quelque sorte. Puis c'est la tâche, en ce qui me concerne, là, des cultural studies, là, au sens très large. Là.
Mais bon, c'est drôle parce que quand j'avais le livre dans mes mains, c'est une drôle d'impression, ça dit peut-être beaucoup pour ma génération, dans mon bagage culturel. T'sais. J'ai vu Poétique du mixtape, puis je me suis dit qu'en 230 pages, ce que tu ferais, c'est que tu aborderais ce qui est pour moi le mixtape, mais que je me rends compte que c'est une définition beaucoup plus restreignante de que qu'est-ce que toi tu fais. Je pensais à Scott Pilgrim. Je pensais à cette offrande-là, le cadeau qui est plus souvent qu'autrement romantique de la cassette du mixtape. Tiens, je t'ai fait un mixtape. Puis qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente? Puis j'étais vraiment comme, wow, on va regarder ça. Et dès les premières pages, je me suis rendu compte que non seulement je m'étais trompé, mais que j'avais une vision beaucoup trop restreinte de qu'est-ce que c'est le mixtape.
Le mot lui-même, là, il y a plusieurs sens qu'on peut lui accorder. Puis le sens initial, tu sais, d'un mixtape, d'une cassette sur laquelle on sélectionne des chansons, puis on les agence une à la suite de l'autre, puis qu'on offre à quelqu'un. Le film High Fidelity était tourné autour de ça. Puis souvent, le mixtape, il est dans cette perspective-là, il est associé à l'idée d'une offrande, d'un cadeau qu'on offre à un proche, à une personne qu'on aime, puis on veut lui communiquer quelque chose de nous en partageant nos goûts musicaux. Puis bon, cette pratique-là, elle était rendue possible depuis, là, j'oublie la date exacte, mais dans les années 70, là, la compagnie Philips a mis les rubans magnétiques personnels sur le marché. Puis là, ben, avec un petit système à la maison, on pouvait d'une cassette à l'autre enregistrer les chansons. De nos jours, cette pratique-là, elle se retrouve en ligne. Ben oui. Parce que là, et là, ça s'appelle des playlists. On fait des playlists le dispositif d'iTunes. On peut faire des playlists avec son compte Spotify. Spotify la compagnie elle-même là, va nous proposer des playlists qui, je le sais parce que je connais quelqu'un qui travaille là-bas, là, je sais qu'il y a un input octorial, il y a quelqu'un là, qui les crée, ces ben playlists-là, oui. Mais en même temps, il y a certaines playlists qui vont se retrouver créées par des algorithmes sur lesquels il n'y aura pas, au niveau octorial, là, d'influence, mais la playlist, elle va surtout refléter au niveau du réceptorial, si tu me permets, le néologisme, ouais. Tes propres goûts, tu sais, parce que si l'algorithme, ouais, il a vu qu'est-ce que tu avais écouté au courant des semaines précédentes, il va te produire une playlist, déjà là, avec Genius sur iTunes, je vois déjà là, qu'il me suggère des affaires à écouter, parce qu'il a vu qu'est-ce que...
Ils sont tous dans le paradigmatique de ce que tu as déjà écouté, à peu près, là.
Moi, le mixtape, au sens où je l'analyse là, dans mon ouvrage, c'est le mixtape octorial de DiscJockey où il n'y a pas d'espace entre les chansons. Là. Mm-hmm. Pour qu'on ait affaire à un mix de DJ, il faut que les chansons soient sélectionnées, mais aussi enchaînées les unes aux autres. Alors que, traditionnellement, les mixtapes sur cassette, dans une pratique intime, impliquent un blanc, c'est pas un mix de DJ à non, proprement parler. Mais je n'ai pas fait l'exercice, mais je pose l'hypothèse que la méthode que je mets en place dans Poétique du mixtape, tu peux la prendre pour analyser un mix de DJ, mais tu peux aussi la prendre pour attribuer du sens, oui, à une playlist. Et là, j'invite les lecteurs, le public, à faire l'exercice là, sur la plateforme web Pop en Stock. Là. Il y a un dossier qui va être consacré là, à l'art des DJ pour discuter des idées que je mets en place dans le bouquin. Puis j'invite donc les lecteurs à réagir. Peut-être que c'est possible de prendre ces thèses-là et ensuite de les appliquer à un autre objet. Là.
Et aussi, techniquement, si tu peux le faire pour un set de DJ et tu peux le faire pour un mixtape avec des espaces entre les chansons, tu peux aussi prendre cette méthode-là puis analyser un album d'un artiste complet. Là, tu pourrais prendre l'album noir de Metallica puis appliquer Poétique du mixtape dessus. Ça fonctionnerait.
Probablement. Tu vois, j'avais pas prévu cet
agencement musical,
cette possibilité-là. Puis de toute façon, désormais, il y a des albums qu'on appelle des mixtapes aussi. Là, sur la scène hip-hop, mm-hmm, rap, là, le terme a un troisième sens, là, où il réfère à l'idée qu'un artiste va mettre en ligne un album gratuitement, disponible pour ses fans. Il y a pas